L'histoire que je vais raconter s'appelle « Le père et ses 6 filles ». Un père très pauvre avait 6 filles. Un jour, il se rendit au café du village où il habitait. Et quand il entra, un des autres usagers du café le salua en disant « Eh, bonjour, voilà le père des 6 petites oies qui arrivent ». Il fut profondément mortifié de ce qu'il venait d'entendre et ne trouva rien à répondre. Il rentra chez lui, fâché, préoccupé, de mauvaise humeur. La fille aînée, le voyant dans cet état, lui demanda « Père, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi êtes-vous si mal? Pourquoi êtes-vous de si mauvaise humeur ?» Il lui raconta l'histoire. Et elle dit « Ah, c'est pour ça que vous êtes fâchée ? Oh, et moi qui croyais que vous étiez en train de vous préoccuper pour mon futur mariage. » Le père fut très étonné, très frappé de cette réponse. Et se dit « Voilà que j'ai 2 sujets de préoccupation. » Le lendemain, il retourna au café. Et une fois encore, l'autre usager, le voyant arriver, ayant compris d'ailleurs qu'il pouvait l'ennuyer très fort en lui disant cela, le salua en disant « Hé, bonjour, père des 6 petites oies !» À nouveau, il rentra chez lui, profondément vexé, et sa 2e fille, le trouvant ainsi, lui demanda quel était le sujet de son énervement. Il le lui expliqua, et elle aussi, d'une petite voix triste, quand il lui racontait son histoire, répondit « Oh, et moi qui croyais que tu te préoccupais de me trouver un mari. » Le 3e jour, la même chose lui arriva. Il se confia à la 3e fille, elle lui fit une remarque semblable. Et ainsi de suite, jusqu'au 6e jour, où, n'en pouvant plus, il rentra mortifié, vert de rage. Sa plus jeune fille, le voyant ainsi, lui dit « Mais, notre père, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air vraiment, vraiment très contrarié. » Et il lui raconta l'histoire, il lui raconta aussi que c'était la 6e fois que ça lui arrivait. Alors, la 6e fille lui dit « Mais, père, demain, quand vous irez au café, quand il vous saluera de cette manière, vous ne vous laisserez pas désarçonner et vous répondrez « Salut le père des 6 flagorneurs !» Flagorneur, ça veut dire « lèche-botte ». C'est ce qu'il fit. Et l'autre fut très vexé, lui aussi. Mais il trouva tout de suite une répartie. Il lui dit « Eh bien, oui, j'ai des flagorneurs peut-être comme fils, mais c'est des mâles. Et eux peuvent aller à la recherche de la pomme d'or du fils du grand B. Tes filles ne le peuvent pas. » Le père, plus mortifié que jamais, rentra chez lui raconter cela à la 6e fille. Et celle-ci, qui n'avait pas froid aux yeux, comme vous avez peut-être déjà pu le comprendre, lui dit « Mais père, tu lui répondras demain que ta 6e fille est parfaitement capable d'aller, comme ses fils, s'occuper de chercher la pomme d'or du fils du B. » Et s'il ne veut pas te croire, et s'il veut faire un pari, n'hésite pas à parier une grosse somme. Je suis sûre de moi. Le lendemain, au café, cela dégénéra en bataille rangée. Tellement les 2 hommes voulaient chacun avoir raison. On fit venir les soldats et il y eut même un jugement. Les juges décidèrent que la meilleure chose à faire était d'envoyer un fils du père des flagorneurs et la 6e fille à la quête de la pomme d'or du fils du B. Ils partirent ensemble, mais avant qu'ils aient pu partir, les juges avaient bien spécifié au jeune homme qu'il n'avait le droit de toucher à aucun cheveu de la jeune fille, qu'il ne devait lui faire aucun mal, sinon il serait sévèrement puni. La jeune fille, avant de partir, s'était habillée en jeune homme et elle avait pris le nom d'Ali Sakdic. Ils partent donc tous les deux à cheval et font plusieurs jours de chevauchée. Ils sont jeunes, ils sont infatigables, ils avancent. Mais le chemin est long. Un jour, ils arrivent devant un pont. Et oh malheur, les deux chevaux ne veulent pas passer le pont, il n'y a rien à faire. Ils s'y essaient pendant des heures. Et quand le soir tombe, ils renoncent. Et ils disent, je crois que nous avons manqué notre but. Je crois, nous croyons tous les deux qu'il va falloir rentrer chez nous. Mais la jeune fille était têtue. Cela lui déplaisait fortement. Et quand le jeune homme monta à cheval pour rentrer chez lui, elle lui dit « Je viens, j'arrive. Je suis un peu trop fatiguée maintenant après toutes ces tentatives de faire passer le pont aux chevaux et je me repose encore un petit moment. Va, précède-moi, j'arrive tout de suite. » Mais en fait, elle resta et elle songeait à une solution. Et tout d'un coup, lui vint une idée. Elle se dit « Mais les chevaux ne veulent pas passer le pont. » Parce que quelque chose leur fait peur. Il suffit que j'aveugle mon cheval et j'arriverai à le faire passer. Elle lui tira une étoffe sur la tête, lui donna un bon coup d'éperon et voilà le cheval qui passe le pont sans hésiter. Le jeune homme venait de se tourner. Il venait de voir ce qui s'était passé. Alors il revint en galop, mais il n'avait pas compris ce que la jeune fille avait fait. Et il essaya, lui, encore, à faire passer son cheval, comme ça, sans lui couvrir les yeux. Et ce fut impossible. Il le battit pourtant tellement fort que finalement, le cheval en tomba mort. De l'autre côté, la jeune fille lui faisait des signes et lui dit « Au revoir, je continue mon chemin. Ce n'est pas possible pour toi de continuer sans cheval. » C'était vrai. Et il s'en retourna au village, penaud. Elle continua. Et au bout d'un certain nombre d'heures, elle arriva près de la maison d'une vieille femme. C'était dans un petit village très pauvre où il y avait très peu de maisons et elle n'y trouva que cette vieille femme. Cette vieille femme l'accueillit en lui disant « Bonjour, jeune fille !» Elle s'inclina devant elle fort civilement et lui demanda « Brave femme, m'accorderas-tu ta maison ?» pendant une nuit pour que je me repose. M'accorderas-tu ton hospitalité ? Mais bien sûr, lui dit la dame. Elle la fit entrer. La maison était très pauvre, il y avait très peu de choses, mais elles partagèrent un repas. Et la jeune fille raconta son histoire à la vieille femme, qui lui dit, tu fais bien de me raconter cette histoire. Je vais te donner un caniche. Et je vais te donner aussi un gros morceau de levure. Le caniche, tu dois le garder toujours avec toi. Et le morceau de levure, tu verras. Au moment où tu arriveras devant la mer, tu en laisseras tomber la moitié. Et à ce moment, les vagues se sépareront et il se fraiera un petit passage entre les montagnes d'eau que tu pourras prendre pour traverser la mer. Fais bien attention de ne pas perdre la deuxième moitié de la levure. Quand tu auras traversé la mer, tu te trouveras dans le pays du fils du grand B. La jeune fille remercia beaucoup la vieille femme et fit exactement ce qu'on lui avait dit. Et cela se passa exactement comme la vieille femme le lui avait prédit. Quand elle laissa tomber la moitié du morceau de levure par terre devant la mer, les vagues se séparèrent, lui frayant un passage, et elle put aller à pied sec avec son cheval de l'autre côté, toujours suivi de son petit caniche. De l'autre côté, elle vit très vite, au bout de quelques minutes de marche, un magnifique palais devant elle. Un palais qui donnait sur le rivage de la mer, et devant le palais, le fils du grand bey se promenait de long en large. Quand il vit arriver le chevalier sur sa monture, il s'arrêta, le salua, tous les deux se saluèrent avec force civilité, selon les usages de leur pays. Puis, le fils du bey la quitta pour aller annoncer son arrivée à sa mère. À sa mère, il lui dit « Ma mère, il vient d'arriver un cavalier d'un pays étranger. Il est si beau, mais si beau, qu'on croirait que c'est une fille. Je me demande bien si c'est une fille par ailleurs. Comment pourrais-je faire pour savoir si c'est une fille ?» La mère lui dit « Oh, c'est très facile. Moi, je connais une façon très facile de savoir si c'est une fille ou un garçon. Tu vas aller l'accueillir encore, tu vas lui offrir notre hospitalité et dans son lit, tu mettras des boutons de rose. Les filles sont plus chaudes que les garçons. Si c'est une fille, les boutons de rose se faneront. Si c'est un garçon, ils resteront verts ou verts. » Le fils du grand bey fit exactement ce que sa mère lui avait dit. Mais le petit caniche l'avait suivi. Le petit caniche avait des oreilles qui entendaient tout et le petit caniche avait tout répété à sa maîtresse. Alors, la sixième fille, quand elle arriva dans sa chambre, s'empressa de déranger ses draps comme s'il y avait dormi, mais ne se coucha pas dans son lit et resta debout toute la nuit en fumant la pipe. Le lendemain matin, le fils du grand bey s'empressa d'aller dire bonjour à son hôte. Subrepticement, il souleva le drap, regarda les boutons de rose et vit qu'ils étaient absolument frais. Il retourna chez sa mère et lui dit « Ça n'a pas marché, il me semble. Les boutons de rose sont restés frais, ils ne sont pas fanés, mais je continue à me poser des questions. Je suis presque sûre que c'est une fille, mais j'aimerais bien en être persuadée. » « Écoute, lui dit sa mère, je vais te donner un autre moyen infaillible. Tu vas l'emmener au marché de la ville et sur le chemin, tu lui donnes un coup. Si c'est une fille, il y aura les larmes qui lui viendront à coup sûr. Et puis ensuite, au marché, tu l'amèneras auprès des joailliers et des bijoutiers et tu verras bien comme sa nature de fille se révélera à ce moment-là. » Le fils du grand bey fit exactement ce que sa mère lui avait dit. Il se mit en route avec celui qui disait se nommer Ali Sagdij, et ils partirent pour la ville, pour le marché. Sur le chemin, il donna un coup de poing tellement violent à cette pauvre Ali Sagdij qu'elle en perdit une dent. Mais rapidement, elle tira de sa poche une petite perle, la mit à la place de la dent qui venait de tomber, et dit « Ça ne fait rien, continuons. » Le fils du grand bey était perplexe. Arrivé au marché, il voulut l'emmener auprès des joailliers et des bijoutiers. Mais il dit « Mais ça ne m'intéresse pas. Pourquoi vous m'emmenez-vous là auprès de ces marchands? Je veux voir les marchands de couteaux. » Et là, elle s'acheta un magnifique poignard qu'elle accrocha à sa ceinture. Le fils du grand bey était de plus en plus perplexe et vous imaginez bien qu'à peine arrivé dans son palais, il courut chez sa mère pour lui raconter ce qui lui était arrivé. Lui disant que toujours encore il doutait. Alors sa mère lui dit « Mon fils, voilà maintenant je te dirai un moyen absolument sûr. Tu vas lui proposer d'aller te baigner avec toi, alors il n'y aura plus de mystère. » « Ah, ça c'est une excellente idée, » dit le fils, qui va proposer à Ali Sagdij de l'emmener au hammam. « Ah, » dit Ali Sagdij, « excellente idée. Ça fait longtemps que je ne me suis pas bien lavée. Ce serait une très bonne chose de faire ça. » Et ils partent pour le hammam. Arrivés au hammam, ils se séparent pour se déshabiller. Ali Sagdij traîne. Le fils du bey est déjà déshabillé. Il veut aller dans le hammam. Il l'appelle. Il lui dit « Écoute, les couturiers m'ont fait un habit tellement plein de boutons que j'ai de la peine à faire vite. » Précède-moi, vas-y, je vais te suivre dans un moment, ne t'en fais pas. D'accord ? Dit le fils du grand bey, tout heureux de bientôt savoir la vérité toute nue. Mais, pendant qu'il commence à prendre son bain, Ali Sagdij se précipite dans la cabine où il s'est déshabillé, prend la pomme d'or dans sa poche et lui laisse un billet. Ensuite, elle part au grand galop. Au bord de la mer, elle laisse tomber la deuxième moitié de la levure. La mer se sépare en deux. Elle peut passer à travers. La mer se referme derrière elle. Puis, elle n'oublie pas. Elle retourne chez la vieille femme et la remercie. La remercie avec force cadeau. Puis, elle revient chez elle. Et vous imaginez bien quel accueil triomphal on lui a fait à la sixième fille. Ils ont fait une fête qui a duré des jours. Et, étant donné son mérite, on a donné une rente à elle-même et à sa famille, les sortant ainsi du besoin. Mais retournons auprès du fils du grand B. Comme Alice Agditch ne venait pas prendre son bain avec lui, il finit par se méfier, retourne dans sa cabine, voit que Alice Agditch a disparu et trouve un billet. Et sur ce billet est écrit « Je suis venue en été et je suis repartie en automne. Vierge j'étais en venant et je le suis en partant. » Et c'était signé la sixième fille de, avec le nom et toutes les données nécessaires pour lui pour la retrouver. Alors, maintenant qu'il est convaincu que c'est une fille, immédiatement il appelle une sorcière et lui demande conseil. Et la sorcière lui donne deux colombes magnifiques. Et lui dit d'envoyer ces deux colombes auprès de la jeune fille. Avec elle. Et c'est ce qu'il fait. Il envoie la vieille sorcière avec ses deux magnifiques colombes. Et il lui dit, sorcière, pour la reconnaître, tu regarderas bien ses dents, car l'une d'elles est en perles. Quand la sorcière arrive devant la maison des six filles, elle montre, elle se pavane avec les deux colombes dans leur cage. Elles sont très très jolies, les colombes. Et les filles qui la voient passer, toutes sauf la sixième qui est en train de dormir, lui disent « Eh vieille femme, nous aimerions bien acheter ces jolies colombes. Combien les vends-tu ? » ?»« Oh, elles ne sont pas vraiment à vendre, mais je les donnerai à celle qui rit le plus joliment. » Ah, les cinq filles se mettent à rire, d'un joli rire cristallin, tant et si bien qu'elles réveillent la sixième fille qui vient en nouvelle et demande ce qui se passe. Quand elle voit les colombes, elle aussi veut les acheter, elles sont tellement jolies. Exactement identique. La vieille sorcière lui donne la même réponse et elle aussi rit. Et là, elle voit la dent de perle. Alors, elle lui donne les deux colombes et elle lui dit « Écoute, sixième fille, garde bien les deux colombes, mais veille-toi à ne donner à manger chaque jour qu'à l'une d'elles, sinon elles partiront. » C'est ce que fit la sixième fille. Le soir du premier jour, la première colombe dit à la deuxième « Écoute, moi j'ai bien mangé, je veux retourner chez moi. »« Comment ?» dit l'autre. « Je n'ai rien eu, moi. Je veux attendre encore. Je n'ai pas assez mangé pour partir en voyage. » Et le lendemain, les rôles inversés, il y en avait une qui voulait rester et l'autre qui voulait partir. Et ça dura pendant 40 jours. Mais le 41e jour, la sixième fille oublia qu'elle ne devait manger qu'elle ne devait donner à manger qu'à l'une des deux colombes. Et pendant la nuit, les deux colombes l'enveloppèrent dans un voile et partirent avec elle à tire d'aile. Elles arrivèrent auprès du fils du grand B et la posèrent dans ses bras. Et c'est dans les bras du fils du grand B que la sixième fille se réveilla. L'imam était prêt. Le mariage fut célébré immédiatement et 40 jours de fête le suivirent. Moulay Yamam, la jeune fille et la goule. Il vivait une fois un homme avec sept filles. Cet homme décida d'entreprendre le voyage pour aller faire le pèlerinage de la Mecque. Il voulait aussi amener à chacune de ses filles un cadeau et il leur demanda ce qu'elles voulaient.
chacune de ses six filles, de ses six premières filles, lui demanda un beau cadeau. Mais la septième, au lieu de lui demander un objet, lui dit « Apporte-moi Moulay Hammam ou Imam. » Pour bien s'assurer que son père n'oublierait pas la commission, elle s'adressa aussi au mulet de son père et lui dit « Rappelle à mon père de me ramener Moulay Hammam ou Imam. » Elle lui glissa dans l'oreille afin qu'il ne l'oublie pas. Le père se rendit à la Mecque sur son mulet, fit le pèlerinage, acheta tous les cadeaux pour ses six premières filles, mais oublia ce que lui avait demandé la septième. Quand il voulut partir et qu'il monta sur son mulet, le mulet refusa d'avancer. Il prit un bâton pour le taper, le mulet n'avançait pas. Finalement, il se rappela qu'il avait une épine au fond de sa poche. Il lui mit sa main pour la sortir et trouva un petit billet. Et ce petit billet était le billet de sa septième fille. Et dessus, elle écrivait « Mon père, n'oublie pas de me ramener Moulay Hammam ou Imam. » Ah, se dit le père, c'est donc que j'avais oublié cela. Il dit à ses serviteurs de l'attendre avec son mulet et il partit à la recherche de Moulay Hammam ou Imam. Il marcha pendant longtemps et arriva dans un pays lointain. Un jour, il rencontra un goul. Un goul, c'est un sorcier. C'est une espèce de sorcier, disons. Il se dépêcha de lancer dans la gueule ouverte du goul une poignée d'amandes. Le goul avala les amandes et lui dit « Si tu ne m'avais pas nourri avant de me saluer, les montagnes des alentours à présent entendraient craquer tes os sous mes dents. Que désires-tu ?» Le père lui raconta ce qu'il cherchait et le premier goul lui dit de continuer le chemin jusqu'à ce qu'il trouve un deuxième goul qui saurait lui donner d'autres indications. Quand il rencontra le deuxième goul, il s'empressa de lui lancer une énorme poignée d'amandes dans la gueule. Et le deuxième goul lui dit « Tu as bien fait de me nourrir avant de me saluer, car sinon les montagnes que tu vois là autour entendraient à présent tes os craquer sous mes dents. Que veux-tu ?» Le père lui raconta ce qu'il cherchait. Alors, le deuxième goul lui dit « Continue ton chemin jusqu'à ce que tu trouves un village dans la montagne, un village nommé le Décra des Olives. Là, tu trouveras un goul à sept têtes. Jette-toi contre lui et embrasse sa poitrine. Il te donnera d'autres indications pour trouver Moulay Hammam. » Quand il trouva le troisième goul, l'effrayant troisième goul à sept têtes, le père fit exactement ce que lui avait dit le deuxième. Il se précipita sur la poitrine du troisième goul et l'embrassa. Et le goul lui dit « Si ton salut n'avait pas précédé le mien, les montagnes environnantes entendraient à présent craquer tes os sous mes dents. » Le père lui raconte la raison pour laquelle il se trouve là et le goul est d'accord de se charger d'une lettre qu'il apportera à Moulay Hammam ou Imam. Il le fait. En réponse, Moulay Hammam ou Imam lui donne deux noix et un message oral. Le goul s'empresse d'apporter les noix et le message au père. Le père doit dire à sa fille qu'elle doit nettoyer sa chambre, préparer son lit et brûler la noix dans le feu dès qu'il fait nuit. Le père retourne à la Mecque, retrouve son mulet et ses serviteurs et se retourne chez lui. Là, ses filles l'accueillent avec joie et toutes prennent le cadeau qu'il leur a apporté. Il donne aussi à la septième fille les deux noix et le message. Alors la jeune fille s'empresse de nettoyer bien sa chambre. Elle prépare son lit et la nuit venue brûle la noix dans le feu. Et voilà qu'apparaît Mouleyamam ou Imam sous la forme d'une belle colombe. Ensuite, il se transforme en un beau jeune homme. Ce beau jeune homme prend son sabre et frappe un coup sur le sol. Et voilà qu'apparaissent des djinns. Les djinns, ce sont des espèces de petits êtres qui sont parfois très gentils et qui peuvent aussi être très méchants. Ça dépend s'ils sont à votre service ou non. Et les djinns préparèrent un magnifique repas. Et ce fut le repas de noces de la septième fille et de Mouleyamam ou Imam. Le lendemain, après avoir passé sa nuit de noces avec la septième fille, Mouleyamam ou Imam glissa un sac d'or sous le lit de celle-ci qui dormait encore et disparut. Les sœurs, curieuses de voir ce qui s'était passé, arrivèrent dans la chambre de la septième fille et, pour se mettre dans ses bonnes grâces, firent son lit et trouvèrent le sac d'or. Elles le prirent et le substituèrent, ne le lui donnèrent pas. Mouleyamam ou Imam, à partir de ce jour-là, vint toutes les nuits rendre visite à sa femme et toutes les nuits, il laissa sous son lit un sac de pièces d'or. Et chaque matin, les sœurs et les tantes de la septième fille vinrent faire le lit et trouvaient le sac de pièces d'or et s'en emparaient. Un jour, une voisine vint rendre visite à la septième fille. Elle lui dit: « Tu es mariée depuis un certain temps avec Mouleyamam ou Imam. Comment se fait-il qu'il ne t'ait jamais donné de cadeau? Tu devrais lui en demander un. Demande-lui au moins un anneau. »« Ah oui, » dit la septième fille, « je vais lui demander ça. » La nuit suivante, quand Mouleyamam fut auprès d'elle, elle lui dit: « Pourquoi ne m'as-tu jamais apporté le cadeau ?» Mouleyamam ou Imam lui dit: « Est-ce que c'est toi qui fais ton lit ?»« Non, non, tous ces jours-ci, ce sont mes sœurs qui ont fait mon lit. »« Eh bien, demain, c'est toi qui feras ton lit et tu verras. » Bien sûr qu'elle trouva le sac d'or. Elle le trouva ce matin-là. Elle le trouva tous les matins suivants. Mais les sœurs décidèrent d'une autre supercherie. Un jour, elles invitèrent la septième fille à venir avec elle au hammam pour prendre un bain. Et pendant qu'elles étaient toutes là, il y en a une qui partit en se cachant. Elle vint dans la maison et cassa un carreau de la chambre de la septième fille. Et la nuit venue, quand Mouleyamam ou Imam vint retrouver sa femme, il se blessa au carreau et il partit. Et la septième fille attendit en vain. Elle l'attendit une nuit, elle attendit deux nuits, elle attendit plusieurs nuits, puis elle comprit qu'il n'allait plus revenir. Alors, elle prit des habits d'homme, s'acheta un cheval, prit toutes les pièces d'or qu'elle avait assemblées et partit à la recherche de son mari. Après avoir chevauché pendant toute la journée, elle arriva la nuit dans un endroit où il y avait des arbres. Elle se coucha sous l'un d'eux pour dormir. Et voilà que pendant la nuit, elle entendit une conversation entre l'arbre sous lequel elle se trouvait et l'arbre voisin. « Tante Ziwana, » dit le premier arbre, « as-tu entendu l'histoire de Mouleyamam ou Imam ?»« Oui, » dit tante Kiwana, « j'ai entendu l'histoire de Mouleyamam ou Imam. J'ai entendu qu'il était mourant. J'ai entendu que 90 médecins ont essayé de le guérir et qu'ils n'y ont pas réussi. Et comme ils n'y réussissaient pas, on leur a tous coupé la tête. Sais-tu ce qu'il faudrait faire pour guérir Mouleyamam ou Imam ? Oui, dit l'autre arbre. Une petite feuille de toi, une petite feuille de moi, une branchette de toi, une branchette de moi. Il faut les mettre dans un mortier, il faut les écraser jusqu'à ce que ça devienne de la poudre. Ensuite, il faut tuer 7 moutons. Il faut mettre Mouleyamam ou Imam dans un bain, l'arroser d'eau tiède, le mettre ensuite dans le ventre d'une des brebis mortes, frapper la brebis d'un bâton, sortir Mouleyamam, le mettre dans la deuxième brebis, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait été dans ses 7 brebis. Ensuite, tous les débris de verre qui sont en train de le blesser auront quitté son corps. Et il faudra encore l'enduire de la poudre qu'on aura recueillie dans le mortier, et ensuite il guérira. La 7e fille avait bien écouté et avait bien mis dans sa mémoire ce qu'elle avait entendu. Elle cueillit une feuille de chacun des 2 arbres, elle cueillit une branchette, et elle se rendit à l'endroit où se trouvait Mouleyamam ou Imam. Il se présenta comme étant médecin. On lui dit, est-ce que tu n'as pas peur de te faire couper la tête ? Il dit, non, je suis venu guérir Mouleyamam ou Imam pour l'amour de Dieu. Dites-lui que je suis un médecin pour venir le guérir. On l'annonça et Mouleyamam accepta qu'elle le soigne. Elle fit exactement ce qu'avaient dit les 2 arbres et Mouleyamam ou Imam guérit. Quand il fut guéri, il se rendit chez sa mère et lui dit, « Ma mère, le médecin qui m'a soigné et qui m'a guéri, à l'aspect de ma femme, il est pourtant habillé en homme. Il faudrait vraiment que je sache si c'est un homme ou une femme. Dis-moi, comment faire pour le savoir ?» La mère de Mouleyamam était une goule. Une goule effrayante. Elle lui dit, « Écoute, il faut que tu prépares à ce médecin une tête de mouton. Et tu regarderas bien ce qu'il mange, car les femmes aiment manger la langue, les oreilles et les yeux. Si elle le fait, c'est qu'elle est une femme. » Mouleyamam ou Imam fit exactement ce qu'il lui avait dit, mais le cheval de la 7e fille avait tout entendu, lui avait tout raconté. Et ainsi, la 7e fille ne toucha pas à la langue, ni aux yeux, ni aux oreilles de la tête de mouton. Mouleyamam retourna chez sa mère, la goule, et lui demanda encore conseil, en lui disant qu'elle n'avait pas touché au mets que mangent les filles. Alors elle lui dit, écoute, tu regarderas la luzerne qui orne le cheval du médecin. Si cette luzerne est encore verte, c'est qu'elle est un homme. Si elle est déjà jaune, c'est une femme. Le cheval de la 7e fille avait tout entendu et il avait tout raconté à la 7e fille. Et elle s'était empressée de changer la luzerne de son cheval contre celle du cheval de Mouleyamam. Et il trouva une luzerne toute verte. Alors il retourna chez sa mère et lui dit ce qu'il avait vu. La mère goule lui dit, « Il me semble bien que c'est un homme, au fond. Mais amène-la dans le jardin et tu verras bien. Si elle mange des fruits et cueille des fleurs, c'est que c'est une femme. » Mais la 7e fille avait été mise au courant par son cheval et dans le jardin, elle ne mangea rien du tout. Quand Mouleyamam rapporta cela à sa mère, elle dit, « Je suis presque sûre que c'est un homme. Mais amène-la au bain, amène-le au bain et tu verras bien. » Arrivé au bain, le cheval de la 7e fille se disputa avec le cheval de Mouleyamam. Et Mouleyamam dut les séparer. Pendant ce temps, la 7e fille prit vite son bain et se rhabilla. Et Mouleyamam ne put rien voir. Quand il revint vers sa mère pour lui raconter ce qui s'était passé, elle lui dit, « C'est un homme, il n'y a plus de doute. » La 7e fille, voyant que Mouleyamam était guéri, décida de partir. Mouleyamam a voulu lui donner beaucoup de cadeaux. Elle les refusa tous. Mais elle lui posa une condition. Elle lui dit « Qui se met sous ta protection et sous la protection du médecin qui t'a guéri, ne lui fait jamais de mal. Et donne-moi l'anneau qui se trouve à ton doigt. » Moulay Hammam promit et Moulay Hammam lui donna l'anneau. La septième fille retourna chez elle. Arrivée chez elle, elle nettoya sa chambre, fit son lit et brûla la deuxième noix qu'elle avait reçue de son père. Moulay Hammam apparut dans la nuit. Il tenait son sabre à la main et, persuadé que sa femme était un homme, il voulut la tuer. Mais elle se mit sous sa protection et lui rappela sa promesse. Il lui dit « Comment peux-tu savoir que j'ai fait cette promesse ?» Alors elle lui montra l'anneau et il comprit que c'était elle qui l'avait guéri. Alors il la prit sous son aile et l'amena dans son pays. Et il la confia à sa mère, la goule. Mais la goule décida de l'éprouver. Et pour anéantir sa belle-fille, elle l'obligea de nettoyer la maison. Et elle lui dit « Il faut que tu nettoies la maison avec de l'eau. Et il faut que chaque goutte d'eau se trouve exactement à la même distance de toutes les autres gouttes d'eau. » La septième fille pensa que c'était impossible et elle se mit à pleurer. À pleurer très fort. Et voilà que vint Moulay Hammam et lui demanda pourquoi elle pleurait. Elle le lui raconta. Et Moulay Hammam demanda l'aide d'un afrite qui était un serviteur. Et l'afrite savait comment faire pour que les gouttes d'eau soient toutes équidistantes les unes des autres. Quand la goule vit que sa belle-fille avait réussi, elle fut très fâchée et lui dit « C'est ce fils sans respect qui t'a aidé sans doute, mais je vais te donner une autre épreuve. » Et elle apporta un chargement de blé, un chargement de seigle et un chargement de haricots et un chargement de lentilles. Elle mélangea tout ça et lui dit « Voilà maintenant, en une journée, il faut que tu sépares ces tas. Sinon, je te mangerai. » La septième fille se mit à sangloter parce qu'il lui semblait que cette tâche était impossible. Moulay Hammam arriva et lui demanda pourquoi elle pleurait. Elle lui raconta ce qui se passait. Et il appela tous les oiseaux du monde, car il était le roi de tous les oiseaux du monde. Et il leur demanda de séparer les grains des haricots des lentilles. Ils le firent. Et parmi tous les oiseaux, il y en avait un tout petit, une toute petite oiselle qui allait avoir des petits. Et comme elle avait très faim, elle mangea une lentille. Et quand la goule vint et qu'elle vit que tous les tas étaient séparés, elle dit « Il manque une lentille. Si tu ne la trouves pas immédiatement, je vais te manger. » La septième fille se mit à sangloter. Et Moulay Hammam ou Imam vint et lui demanda pourquoi elle pleurait. Elle le lui raconta. Alors il rappela à tous les oiseaux du monde et demanda « Lequel d'entre vous a mangé une lentille ?» Et la petite oiselle qui avait mangé la lentille, elle dit « Mais c'est parce que je vais bientôt avoir des petits, j'ai avalé une lentille. » Moulay Hammam lui dit « Recrache-la. » Et elle la recracha. Et la goule vit que toutes les lentilles étaient là et elle dit « C'est encore ce fils sans respect qui t'a aidé. Eh bien, je dois te donner une nouvelle épreuve. Je vais marier mon fils. Il faut que je l'enduise de henné, parce que dans ce pays-là, on enduisait de henné les nouveaux mariés. Il faut que tu me tiennes la chandelle toute la nuit, et il faut qu'elle brûle toute la nuit. » Et la jeune fille tint la chandelle, mais la nuit était longue et la mèche se consomma. Alors, pour que la chandelle reste allumée, elle trempa l'une de ses nattes dans la bougie. Et la natte brûla, et elle allait brûler elle aussi, alors elle pleura, et Moulay Hammam vint lui demander ce qu'il y avait. Elle le lui raconta. Il éteignit le feu. Il trouva une mèche, la mit dans la bougie, et la bougie brûla jusqu'au matin. quand la goule vit ce qui s'était passé, elle se fâcha et elle dit « C'est encore ce fils sans respect qui t'a aidé. Mais je vais te trouver une autre épreuve. Tu dois aller chercher une passoire chez ma sœur, la goule. » C'était une goule qui était encore plus méchante qu'elle. La septième fille pensa qu'elle n'y arriverait jamais. Elle se mit à sangloter. Moulay Hammam arriva. Elle lui raconta ce qui se passait et lui expliqua ce qu'il allait lui arriver et comment surmonter les difficultés. Il lui dit « Sur le chemin, tu vas trouver un âne et un chien. Devant l'âne, il y aura des os, et devant le chien, il y aura de la paille. Alors tu prendras la paille et tu la mettras à la place des os, et les os à la place de la paille. Ensuite, tu trouveras une immense poutre de boue. Tu la prendras et tu la coucheras. Et ensuite, tu trouveras un petit ruisseau, et tu le salueras en disant « « Oh, grand fleuve, je te salue !» Et ensuite, tu passeras par un chemin creux. Et lui aussi, tu le salueras en lui disant « Oh, chemin, grande route, je te salue !» Et ensuite, tu trouveras la goule. La goule aura jeté ses seins dans son dos. Son front sera appuyé contre le mur. Et toi, tu iras sucer son sein. Tu verras, c'est exactement ça que tu dois faire. » La septième fille fit exactement ce qu'on lui avait dit. Elle intervertit les tas devant le chien et devant l'âne. Et quand la goule, la mère goule, cria au chien et à l'âne de s'attaquer à la septième fille, dire « Non, nous ne pouvons pas nous attaquer à la septième fille car elle nous a donné à manger. » Et quand elle trouva la poutre debout, elle la coucha. Et quand la goule cria à la poutre de tomber sur la jeune fille, elle dit « Non, je ne peux pas. Elle a vu que j'étais fatiguée, elle m'a couchée. Je ne peux pas tomber sur elle. » Et la jeune fille trouva le ruisseau et elle le salua en l'appelant « Grand fleuve ». Et quand la goule cria au grand ruisseau d'engloutir la jeune fille, elle dit « Je ne peux pas engloutir cette jeune fille. Toi, tu m'appelles ruisseau, mais elle m'appelle fleuve. » Et quand la jeune fille passa dans le chemin creux, elle le salua en lui disant « Ô grand chemin, je te salue. » Et quand la goule cria au chemin creux d'enfermer la septième fille, le chemin creux dit « Mais non, je ne peux pas l'enfermer. Toi, tu m'appelles un chemin creux, mais elle m'appelle un grand chemin. » Alors, la septième fille trouva la sœur de la goule. Elle s'approcha d'elle, elle s'approcha d'un de ses seins et se mit à le sucer. Elle lui suça le sein droit. Et la goule cria à sa sœur « Mange-la !» Mais la goule, sœur, dit « Je ne peux pas la manger, elle a sucé mon sein droit. » Alors la goule, la mère, entra dans une très très grande colère et elle dit « C'est encore mon fils irrespectueux qui t'a aidé. Aujourd'hui est le jour du aîné pour ma belle-fille, car elle voulait fêter un nouveau mariage pour son fils. Tu vas tenir la lampe toute la nuit jusqu'au matin, jusqu'à ce que j'ai fini. » La mèche de la chandelle brûla et de nouveau la septième fille plongea sa natte dans la chandelle, sa deuxième natte, et elle prit feu et elle se mit à pleurer. Et une de ses larmes tomba sur la joue de Moulay Hammam ou Imam et il se réveilla. Il la sauva de l'incendie et il l'emmena. Il l'emmena sous son aile, dans sa propre maison, loin de la goule.